deux parties dans mon intervention. La première consistera dans une présentation de l'histoire de la bibliothèque communale populaire de Montreuil. Dans une seconde partie, je tenterai de vous présenter en quoi, aujourd'hui, les bibliothèques de Montreuil tentent de s'inscrire dans cet héritage au quotidien, étant entendu que les bibliothèques de lecture publique en France sont dans un contexte d'interrogation de leur modèle professionnel et que il nous semble à Montreuil, je parle collectivement, l'ensemble de l'équipe s'inscrit dans ces perspectives, il nous semble à Montreuil que l'éducation populaire et l'héritage des bibliothèques populaires pourraient permettre d'enrichir utilement la réflexion sur les évolutions du modèle de lecture publique en France, comme ça a été le cas lors du développement des bibliothèques populaires à la fin du XIXe siècle, comme ça a été le cas plus près de nous, dans l'après-guerre, avec Geoffre Dumasdier et les militants de l'éducation populaire qui ont investi la lecture publique dans les décennies de l'après-guerre. Alors, je commence par l'histoire de la bibliothèque communale populaire de Montreuil. Communale populaire, ça indique bien la double inscription, le double héritage de cette bibliothèque. À la fois, c'est une bibliothèque communale, donc elle s'inscrit dans le cadre réglementaire qui est celui de 1874. Et donc, c'est une bibliothèque qui est gérée par la commune de Montreuil. Et en même temps, bibliothèque communale populaire, on voit bien l'héritage des bibliothèques populaires qui ont parsemé le XIXe siècle en France. À Montreuil également, il semble, c'est même avéré, il y a eu une bibliothèque des Amis de l'Instruction. Nous le savons parce que nous avons la trace de deux dons effectués par la bibliothèque des Amis de l'Instruction à la bibliothèque communale populaire. Nous n'avons pas d'autres informations sur cette bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction. On a fait quelques recherches, mais on a trouvé que ces deux tampons sur deux dons de la bibliothèque communale populaire. Donc il y a eu une bibliothèque populaire. La décision de création est prise en 1875 avec ce double héritage d'une bibliothèque populaire et d'une bibliothèque communale. La bibliothèque qui verra le jour 4 ans après, j'y reviendrai dans la suite de mon propos, en 1879, évoluera assez peu jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, conservant en gros un mode de fonctionnement qui est essentiellement assis sur le bénévolat et des collections qui sont autant augmentées par les dons que par la commande publique et l'acquisition d'ouvrages via le budget municipal. C'est une des premières illustrations du lien qui va exister entre les différentes étapes de constitution de la bibliothèque communale populaire et la vie politique locale. 1875, Seconde Guerre mondiale, c'est la Troisième République, il y a une certaine unité de fonctionnement pendant toute cette période, avec des étapes sur lesquelles je vais revenir immédiatement. En 1871, Théophile Sueur, un notable conservateur, est élu maire de Montreuil. La décision de création intervient donc en 1875. 1875, c'est donc l'ordre moral de MacMahon, avec une pression assez forte de l'État sur les initiatives du type des bibliothèques populaires qui peuvent exister. Et la décision de création de la bibliothèque communale populaire de Montreuil est prise dans ce contexte-là. Théophile Sueur va faire face à une opposition relativement organisée de radicaux et de socialistes, avec notamment Arsène Chéreau, qui deviendra maire de Montreuil dans la décennie qui suit, et Mathurin Lahaye, qui deviendra son premier adjoint. Et donc la décision de création de la bibliothèque semble être le fruit d'un compromis entre ce notable conservateur et l'opposition, encore une fois, assez structurée sur le territoire, qui, là encore, on n'en a pas la preuve, mais qui semble avoir été à l'origine de la bibliothèque des Amis de l'Instruction. On peut imaginer que cet ensemble de militants progressistes, enseignants, lettrés, qui gravitent autour d'Arsène Chéreau et de Mathurin Lahaye, ont été les promoteurs de la bibliothèque des Amis de l'Instruction, autant ensuite que ceux de la bibliothèque communale populaire, dans le cadre, encore une fois, du compromis politique qui est noué avec Théophile Sueur. Ils ont donc pris position de manière assez ferme dans le débat qui a agité certaines bibliothèques populaires pendant la période de l'ordre moral. C'est-à-dire que certains militants des bibliothèques populaires plaident pour le fait de laisser maintenant aux institutions publiques, maintenant que la Troisième République est en place, de développer l'accès à la culture, à la lecture pour tous, etc. D'autres, au contraire, plaident pour la continuation des bibliothèques populaires, des associations qui les ont créées, mises en place. Pendant cette dernière partie du XIXe siècle, l'infrastructure économique de la ville de Montreuil évolue beaucoup. C'est-à-dire que Montreuil, au milieu du XIXe siècle, est essentiellement une zone de maraîchage. Il y a encore une station de métro qui s'appelle Maraîcher sur la ligne 9 quand on va à Montreuil pour les franciliens. Et donc Montreuil alimente Paris en fruits et légumes. Et pendant la deuxième partie du XIXe siècle, la ville s'industrialise beaucoup, faisant évoluer la population qui y vit, évoluer les caractéristiques socio-démographiques de la population, mais aussi le nombre d'habitants. On passe de 12 000 habitants en 1870 à 70 000 en 1930. Donc il y a une augmentation de la population et une arrivée de population ouvrière de plus en plus importante, ce qui va faire basculer la ville politiquement. Et donc la superstructure politique va évoluer en conséquence. Et donc on va avoir une prise du pouvoir dans un premier temps par les radicaux, puis par les socialistes, et en fin de mouvement, en 1935, par le Parti communiste. On a, au moment de la constitution de la Bibliothèque populaire, un compromis qui est noué entre les forces conservatrices et les éléments progressistes. Et petit à petit, les éléments progressistes vont prendre le pas, vont diriger la municipalité seule, et donc donner de plus en plus de moyens, de plus en plus d'allants à la Bibliothèque communale populaire, ce qui n'est pas forcément le cas au départ. Les statuts de la bibliothèque sont adoptés le 7 mai 1875. La bibliothèque est mandatée pour travailler à la moralisation publique par la diffusion des Lumières. Donc il y a bien la référence aux Lumières qui est souhaitée, on l'imagine, par Arsène Chéreau, Mathurin Lahaye et les militants progressistes de l'époque. Et en même temps, on limite les missions de la bibliothèque communale populaire de Montreuil à la moralisation de la vie publique. Il y a quand même une dimension conservatrice, en tout cas de stabilité sociale, de contrôle social, qui est présente dans l'acte initial de création de la bibliothèque. On peut comparer ça à, par exemple, le percement des grandes artères parisiennes par le baron Haussmann. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la volonté d'améliorer l'hygiène de la population, donc une préoccupation sociale et hygiéniste, et puis en même temps, il faut faire passer la troupe. Il y a aussi cette ambiguïté dans la création de la bibliothèque de Montreuil. Alors, la comparaison est en partie impropre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ambiguïté dans la démarche de la création de la bibliothèque. Il faut à la fois, bien sûr, permettre aux citoyens d'avoir accès à la connaissance et se faisant au débat public, etc. Et en même temps, il y a une volonté de contrôle social qui s'affirme également dans cet acte de création. Ensuite, les Montreuillois attendront 4 ans avant que la bibliothèque ne soit réellement mise en place. Elle sera ouverte le 11 septembre 1879, alors qu'elle a été, la décision de création a été prise en 1975. Là encore, faute d'éléments concrets à se mettre sous la dent, on en est réduit à faire des conjectures. La première piste pour expliquer ce retard, c'est que tout simplement les priorités budgétaires ont été mises ailleurs. La seconde piste consiste dans le fait que les élus locaux, pardon, j'ai oublié de le dire, mais en 1876, il y a des élections, donc c'est Arsène Chéreau qui devient maire. Donc le camp progressiste remporte les élections municipales, a désormais les mains libres, entre guillemets, au niveau municipal. Mais nous sommes toujours dans un contexte d'ordre moral, Mac Mahon est toujours au pouvoir, et donc il y a toujours un contrôle par le préfet, dans le cadre de la réglementation de 1874, des collections qui vont intégrer les rayons de la bibliothèque. Et donc on peut imaginer que les élus locaux de l'époque ont tardé à ouvrir la bibliothèque pour pouvoir avoir une politique d'acquisition, de constitution des collections, qu'ils aient eux-mêmes entièrement définie. Dernière possibilité, c'est un report de la décision d'ouverture de la bibliothèque par le préfet. Le préfet, en représentant de l'État, et donc qui a à faire face à une municipalité radical mais qui est allié avec des éléments socialistes, devant la radicalité en place au sein de l'exécutif municipal, une décision de report prise par le préfet. Voilà. À ce stade, en tout cas de nos modestes recherches, encore une fois, moi je ne suis pas historien, je suis directeur des bibliothèques municipales de Montreuil, je n'ai pas trouvé d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de trancher dans l'une ou l'autre de ces directions. 1879, donc ouverture de la bibliothèque, elle est ouverte évidemment le dimanche matin, pour éviter aux ouvriers la tentation obscurantiste du dimanche matin à l'église et leur éviter d'avoir à écouter des superstitions. Elle est ouverte également le jeudi soir de 8h à 10h, donc après la journée de travail des ouvriers, rien que de très classique dans le cas des bibliothèques populaires. Et ces collections sont constituées au départ pour partie quand même de livres de prix, de livres qui sont destinés à la fois stimuler le sentiment national, également des livres de morale. Et on a au départ uniquement 15% des collections qui sont des livres de fiction. Les créateurs de la bibliothèque communale populaire n'avaient pas comme ambition, en tout cas on n'en a pas retrouvé trace dans aucun des journaux municipaux de l'époque, effectivement la distraction de la population. Il y avait une double volonté qui était de former des citoyens à l'esprit critique à même de prendre part au débat public, selon des termes différents, encore une fois, selon qu'on parle de la décision de la création ou de la mise en œuvre ensuite de la bibliothèque dans les années 1880. Et puis aussi la volonté de former une main-d'œuvre productive. Et il y avait donc dans les collections de la bibliothèque beaucoup de livres et de revues d'horticulture, puisqu'il y avait encore une activité de maraîchage qui était assez forte, et puis quelques livres de technique, pour ce qui relève du travail d'éducation à la citoyenneté, des livres d'histoire, de philosophie, essentiellement donc orientés dans un sens plutôt progressiste. À la même époque, se constituent dans les écoles de la ville des bibliothèques scolaires, ce qui explique que la bibliothèque est ouverte aux plus de 16 ans. Dans le règlement intérieur de départ, puisque dans les écoles, il y a des bibliothèques scolaires. Donc là, on a pour le coup une articulation assez cohérente de la politique de développement de l'accès à la lecture au niveau municipal. Les collections vont augmenter de manière importante entre les années 1880 et les années 1910, pour ensuite stagner autour de 10 000 volumes, 10 ou 12 000 volumes, jusqu'en 1935. On avait une bibliothèque qui, en 1880, était assez importante pour une ville de cette taille. Hein. À Toulouse, 2500 ouvrages en 1885, 3500 documents en 1892 à Montreuil. Il y a eu quand même un effort conséquent de constitution de cette bibliothèque dans les années 1880. Le mouvement s'essouffle ensuite, il y a le retour des conservateurs au pouvoir dans les années 1910, et puis ensuite un moindre intérêt sans doute de la municipalité socialiste dans les années 20. En 1935, le Parti communiste arrive au pouvoir et lance là un grand programme d'accès à la culture pour tous, lance une université ouvrière. Il se trouve qu'en 1934, un projet de nouvelle mairie a été lancé. Les communistes, en arrivant au pouvoir en 1935, vont décider de changer les plans initiaux du bâtiment de la mairie pour y implanter, alors que ce n'était pas prévu au départ, la bibliothèque municipale au rez-de-chaussée et puis des locaux pour l'université ouvrière à l'étage. Parallèlement, en 1937, est créé un musée de l'histoire ouvrière dans les Hauts de Montreuil, donc dans la partie nord de la ville. Et on a donc un grand dynamisme culturel de la municipalité communiste qui arrive au pouvoir à cette époque, qui inscrit la bibliothèque dans ses perspectives culturelles pour la population de manière importante, en salariant aussi pour la première fois quelqu'un pour s'occuper de la bibliothèque municipale. En 1935, la bibliothèque cesse d'être populaire, elle devient bibliothèque municipale. Par chance, c'est la raison de ma présence aujourd'hui, par chance, les volumes de la bibliothèque communale populaire ont été conservés. Il y a eu une série de bibliothécaires assez avisés à Montreuil qui ont stocké tous les fonds de la bibliothèque communale populaire dans les sous-sols de la bibliothèque. De temps en temps, il y a un chercheur qui passe les voir et qui nous demande à les consulter, ou Michel Rosevitch qui travaille assidûment dessus. Mais voilà, elle n'est pas accessible pour le public, mais elle a été conservée quasiment dans son intégralité telle qu'elle était en 1911, puisqu'on a conservé le catalogue de 1911. Il y a quelques livres qui ont été perdus ou volés peut-être. On a 6-7 000 ouvrages qui constituent une grande partie de ce qu'était la bibliothèque communale populaire à l'époque. Donc c'est assez intéressant pour des travaux de recherche futurs. Il ne faut pas hésiter à orienter de jeunes chercheurs vers ces collections. Il y a sans doute tout un travail à entreprendre. Nous, on a modestement tenté d'observer les grandes masses des collections qui étaient présentes à l'époque et puis de faire quelques menu-recherches dans les bulletins municipaux et dans les archives pour faire une première synthèse de ce qu'a été cette bibliothèque communale populaire. Aujourd'hui, elle est uniquement valorisée. On fait une conférence sur l'histoire de la bibliothèque communale populaire lors des journées du patrimoine. Et puis, c'est à peu près tout. Elle dort paisiblement dans les locaux de la bibliothèque. Au moins, ses collections ne se dégradent pas. Elles continueront de pouvoir être étudiées à l'avenir. La deuxième partie de mon propos, elle consiste à s'interroger sur la pertinence du message d'éducation populaire dans la réflexion sur l'avenir des bibliothèques aujourd'hui. Le modèle de bibliothèque qui a prévalu en France pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, qui est issu globalement des réflexions qui ont eu cours notamment dans l'Association des bibliothécaires de France dans les années 60, et qui consiste dans le libre accès des collections pour tous, c'était quand même une évolution importante, et dans le primat de la transmission du document, du prêt du document, par rapport au primat de la conservation, qui était le fait principal, le fait majoritaire dans la profession jusqu'aux années 50 ou 60. Ce modèle de bibliothèque, il est interrogé aujourd'hui parce que les bibliothèques comme centre de ressources, je vais très très vite, mais elles sont concurrencées évidemment par Internet. Aujourd'hui, quand on a une recherche à faire, on ne va plus forcément à la bibliothèque, on peut aller sur Internet chercher un certain nombre de documents. La plus-value des bibliothèques dans la société, elle va résider dans la médiation qu'elles seront en capacité d'apporter autour des contenus. Et dès lors qu'il y a une démarche de médiation, on peut inscrire ça dans une démarche d'éducation. Et donc tous les débats qui ont traversé l'éducation populaire depuis maintenant un siècle gagneraient sans doute à irriguer aujourd'hui les débats qui traversent le monde des bibliothèques. On a des écarts dans l'accès à la lecture et à la culture qui augmentent. C'est ce qu'a indiqué la dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français. On a une crise économique importante. On a une faible participation aux scrutins électoraux, y compris une montée en puissance de forces plus ou moins démocratiques, on va dire. Les dernières élections européennes l'ont montré. Évidemment, on peut faire quelques passerelles avec la démarche qui a été celle de la bibliothèque d'éducation populaire du XIXe siècle. Jean Massé disait, lors du congrès constitutif de la Ligue d'enseignement, il disait « la Ligue d'enseignement sera là pour éduquer au suffrage universel ». Parce que tous ces militants étaient déçus de 1848, premières élections au suffrage universel masculin à l'époque, Louis-Napoléon Bonaparte, qui accède au pouvoir. Donc éduquer au suffrage universel, peut-être les mots ne seraient pas utilisés de cette manière-là aujourd'hui. Il y a certainement une intervention pour favoriser la citoyenneté du plus grand nombre que pourraient s'approprier les bibliothèques. Il y a également tout un travail donc à faire de réduction des inégalités d'accès au savoir, de la même manière que les bibliothèques populaires allaient porter le fer auprès de la classe ouvrière ou des milieux populaires. Pour ce qui concerne donc deux pans de cette démarche d'éducation qui, de mon point de vue, est constitutive de la démarche d'éducation populaire et de celle des bibliothèques populaires au XIXe, former des citoyens à l'esprit critique et puis les aider à acquérir des compétences ou des qualifications. Là aussi, un taux de chômage important, un enjeu de formation tout au long de la vie. Tout le monde se gargarise avec cette formation tout au long de la vie, y compris au niveau européen. Il y a la stratégie Lisbonne, la société de la connaissance, etc., etc. Mais on voit bien que ça patine un petit peu. Et les bibliothèques pourraient se positionner sur ces créneaux-là de manière sans doute fort pertinente. Dès la période révolutionnaire, il y avait cette double volonté de former des citoyens vifs d'esprit, je vais très vite, et puis leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle. Quelques exemples de champs dans lesquels les bibliothèques pourraient s'investir. J'ai parlé de la formation tout au long de la vie. Beaucoup de bibliothèques font aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, de l'éducation populaire sans le savoir. C'est plus ou moins verbalisé, plus ou moins théorisé. Il n'empêche qu'il y a une grande partie des activités qui sont conduites par de nombreuses bibliothèques de lecture publique qui relèvent de cette démarche-là. Quand on parle de la formation tout au long de la vie, et on parlait du numérique, de plus en plus de bibliothèques font des initiations à la recherche documentaire, d'initiations y compris à la bureautique, de l'aide à la rédaction de CV, donc accompagnent l'effort de formation qui est porté par l'État en priorité et puis par les partenaires sociaux pour ce qui concerne l'éducation permanente, la formation tout au long de la vie. Et donc les bibliothèques peuvent se positionner en complément de ces structures-là et proposer des dispositifs de développement de compétences sur, par exemple, les outils informatiques. À Montreuil, on lance, par exemple, un partenariat avec Bibliothèques sans frontières pour proposer des formations, des sensibilisations au codage informatique. De la même manière qu'on apprend l'anglais ou l'allemand à l'école, la langue informatique est une langue qui sera une des langues du XXIe siècle, et donc elle n'est pas apprise, ou très peu, dans le cadre du dispositif scolaire. Alors, on pourrait ensuite imaginer des dispositifs beaucoup plus formalisés avec des structures d'éducation populaire, avec des structures de formation continue. Il y a beaucoup de choses à imaginer là, sur ce créneau-là. Je voudrais dire deux mots de l'accueil des migrants, notamment des primo-arrivants. Montreuil est une ville d'immigration, encore aujourd'hui, 100 000 habitants dans l'Est parisien, 80 langues parlées à Montreuil. Je pourrais vous dire que c'est une ville monde, c'est aussi une ville pleine d'inégalités avec des difficultés sociales très lourdes et des personnes primo-arrivantes qui sont dans des situations très difficiles. Il y a des associations d'aide aux migrants sur le territoire qui donnent des cours d'alphabétisation, des ateliers sociolinguistiques. Évidemment, il faut qu'il y ait des ressources accessibles à la bibliothèque en conséquence. Il y a un travail qui est engagé à Montreuil avec plusieurs de ces associations pour accompagner ces personnes migrantes. Au-delà de les accompagner, il faut aussi faire la connexion avec toujours cette dimension citoyenne. Et donc, par exemple, nous avons un partenariat avec la CIMAD. Une fois tous les trimestres, il y a un débat sur les questions d'immigration pour rendre ces sujets présents dans les débats publics. L'an dernier, 6 mois, 1 an avant les élections municipales, alors que la question des Roms, il y a beaucoup de populations roms à Montreuil, faisait débat de manière très vive dans la ville, nous avons choisi de faire un cycle de 6 semaines consacré à l'histoire des Roms, à la culture des Roms, pour essayer de prendre un peu de recul. Et donc là, on était bien dans une démarche d'éducation populaire sur ces questions-là. Il y a un sujet sur lequel je pense aussi qu'il faut que les bibliothèques se positionnent, et elles ne le font pas assez. Les dernières enquêtes ont montré que, en gros, la fréquentation des bibliothèques en France, il y a presque 40% d'une classe d'âge qui est inscrite à la bibliothèque jusqu'à 5 à 10 ans, on va dire. Sur la petite enfance, ça n'était pas le cas jusqu'à il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, grâce à des associations professionnelles comme Accès ou d'autres, on voit bien que des choses se passent. Et là aussi, il y a des enjeux d'éducation populaire très lourds. Parce que quand on amène le livre chez les tout-petits, on amène le livre dans une famille. Et donc, on pose la question aussi du rapport au savoir, du rapport au livre dans une famille. Donc, il faut être présent sur ces enjeux-là. Donc, je disais 40% de classe d'âge jusqu'à 10 ans. Ensuite, les jeunes se barrent à l'adolescence et reviennent quand ils ont des enfants. Et après, s'en vont à nouveau. Et ne reviennent pas quand ils sont à la retraite, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on voit des têtes chenues dans les bibliothèques, mais c'est souvent les mêmes. Et du coup, à l'adolescence, beaucoup de jeunes quittent les bibliothèques. La période de l'adolescence, c'est la période aussi où se constituent des éléments de citoyenneté pour beaucoup de jeunes de ce pays. Donc on a choisi, et les bibliothèques sont trop peu présentes sur les populations adolescentes, d'avoir cette démarche d'éducation populaire auprès, bien sûr, de l'acteur éducation nationale, auprès des ados. Donc ça peut être, je donne quelques exemples en vrac, mais c'est la réalisation d'un petit film sur les questions de genre, avec des classes, collèges et de lycées. La rue est-elle genrée? Pourquoi les tables allongées sont dans les toilettes des femmes? Et faire réfléchir les jeunes sur des questions de société en rencontrant des réalisateurs et des artistes. Donc il y a à la fois la dimension d'épanouissement par la culture, puisqu'il y a quand même une démarche de création ou de l'accomplissement d'une démarche culturelle. Et puis, en même temps, on les fait s'interroger sur des enjeux citoyens contemporains. Pareil, la participation à une émission littéraire et la construction d'une opinion. On a un dispositif de grands témoins. On les fait rencontrer Michel Perrault, historien du féminisme, Stéphane Hessel, un lycéen résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Et bien sûr, quand on a des problèmes de moyens, parce qu'on a tous des problèmes de moyens, si on veut s'inscrire dans cet héritage de l'éducation populaire, il y a quand même une chose très simple à faire, c'est que quand on ne peut pas s'adresser à tous, eh bien on choisit de s'adresser d'abord aux classes SECPA ou aux classes de BEP ou de lycée pro plutôt qu'à la classe de seconde générale de la ville, du lycée du centre-ville. C'est loin d'être formalisé et mis en place partout. Ne serait-ce que des petites choses simples comme ça, de mon point de vue, c'est faire vivre en partie l'héritage des bibliothèques populaires et être là où il faut être.
Merci. Donc c'est un peu...